Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu.
Salut Déborah et Mathieu.
Salut.
Vous êtes toujours malade ou c'est comment? Parce que moi, oui.
Un peu.
Absolument.
Ok, parfait. Très bien. Bon, bah cette Réu, elle va nous servir à prolonger un peu tout ce qu'on a raconté la semaine dernière, du coup, sur la stop motion. La fois d'avant, on a parlé de cette technique très particulière d'animation, avant tout comme un effet spécial, une manière d'augmenter et d'agrémenter des films en prise de vue réelle. On a évidemment passé, du coup, en revue la carrière de Willis O'Brien, de Ray Harryhausen, entre autres. Mais bon, avec tout ça, on a quand même laissé de côté une grosse partie de ce qu'est la stop motion au cinéma. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il est grand temps que nous parlions des films entièrement réalisés en stop motion. Ou presque, en tout cas. Parce qu'entre les personnages en pâte à modeler, ceux en papier découpé, ceux plus actuels avec des marionnettes extrêmement sophistiquées, la stop motion c'est quand même un médium extrêmement riche qui continue d'exister aujourd'hui, même si son heure de gloire est un peu passée. Bon, évidemment, on se souvient tous d'avoir adoré L'étrange Noël de Monsieur Jack quand on était gamin, mais ces dernières années, on a aussi eu droit à Pinocchio de Guillermo del Toro, à un nouveau Chicken Run. Enfin bref, il faut qu'on essaye de retracer un peu tout ça proprement pour comprendre où en est l'art de la stop motion aujourd'hui, je pense. Lors de la Réu précédente, on a un peu placé la définition, on va dire, de la stop motion et on a vraiment pris la naissance de la stop motion comme étant aussi une naissance du cinéma avec les tout premiers courts-métrages utilisant ce procédé dans les années 1890. Là, on va peut-être repartir directement du coup sur les fictions qui se veulent entièrement de stop motion. Ça a commencé par où? Je m'adresse, évidemment, je me tourne vers notre spécialiste de l'animation en chef, Déborah.
Je pense que les historiens savent pas, alors difficilement.
C'est pas toi qui vas savoir.
Non, mais c'est surtout, enfin, c'est ce que je disais la semaine dernière, en fait, essayer de, tu sais, se dire quand est-ce qu'a commencé le cinéma, genre, en fait, tu peux remonter genre très très loin jusqu'à la préhistoire et les peintures rupestres. Pour l'animation, c'est un petit peu pareil, et la stop motion encore plus, étant donné qu'elle s'est développée en même temps que la prise de vue réelle, et les intentions étaient pas les mêmes. Enfin, vraiment, il y a tellement de facteurs. Et au bout d'un moment, il peut y avoir, en fait, dans certains courts-métrages principalement, la stop motion qui va prendre de plus en plus le pas sur, en fait, les prises de vue réelles, qui vont progressivement être plus axées, par exemple, sur les mains du créateur qui commence à dessiner quelque chose. Tu sais, comme on parlait avec Humorous Faces of Funny Faces, avec mon meilleur accent.
Comme ça aurait été refait d'ailleurs avec La Linea, le petit court-métrage, enfin, le petit dessin animé italien, la série animée des années 70, je crois. Enfin bref, c'était le même principe.
Voilà, où en fait, je sais pas honnêtement quel est le premier court-métrage qui a été entièrement en stop-motion où il n'y a pas le moindre insert. Ça répond pas à ta question du coup.
Non, mais genre, où est-ce qu'on peut... Parce que je sais du coup, on en parlait un peu l'autre jour, mais où en fait tu m'apprenais que, par exemple, le cinéma de... alors, je vais sûrement massacrer ce nom, mais du coup, Lotte Reiniger... Reiniger,
oui,
était considéré comme de la stop motion a priori.
Ben, encore une fois, c'est la définition de la stop motion, elle a tellement été mouvante. Enfin, au bout d'un moment, on parlait d'animation en relief, même d'animation trois dimensions, parce que c'était des objets animés. Mais bah oui, je considère que le papier découpé ou même le papier plié après, qui était en trois dimensions justement, bah oui, ça peut totalement faire partie de la stop motion, puisque tu animes tes petits bouts de papier, image par image, pour créer justement...
Il y a de l'animation, il y a du volume.
C'est l'animation. C'est bon, ça rentre.
Parce que, oui, Lotte Reiniger, du coup, c'est une réalisatrice allemande qui a fait des films en animation de silhouette, on dirait aujourd'hui, qui ressemblait beaucoup, qui était vraiment précurseur, on va dire, de ce qu'a fait Michel Oslo par la suite avec Prince et Princesse, par exemple.
Ah bah oui, bah, tout le style d'Oslo, jusque récemment, dans son dernier long métrage, qui est un film à sketch, il y en a un, il reprend en fait ce cinéma de silhouette. C'est totalement un hommage et c'est de là que vient son inspiration et tout son esthétisme.
Et donc Lotte Reiniger, elle a notamment réalisé, enfin elle en a fait plein, mais pour n'en citer qu'un, notamment Les Aventures du Prince Ahmed, du coup en... ça remonte à 1926 du coup.
Oui, mais c'est un des plus connus. Sinon, faut quand même essayer de répondre à ta question parce que j'ai été ultra vague, mais l'histoire est vague, j'y peux rien, entre les trucs qui ont été perdus, ce qui relève de la stop motion avec des mets partout. Je pense qu'on peut s'arrêter sur le roman de Renard de Ladislas Starevitch, du coup, que je prononçais très mal la semaine dernière, et qui, lui, était en gros le premier long métrage entièrement animé en stop motion, qui en plus voulait être sonorisé, mais son histoire est trop moche parce qu'il a nécessité 18 mois de tournage. Et en vrai, aujourd'hui, ça peut paraître long, mais à l'époque, pour les prises de vue et la confection des marionnettes, concrètement, c'est rien, du rush. Voilà, ils ont pas compté leurs heures, les hommes et les femmes qui ont fait ça. Mais le problème, ça a été sur la sonorisation, qui à l'époque coûtait trop cher. Du coup, il a fait d'autres trucs en même temps. Et finalement, ça a fini par se faire après plusieurs remontages, des reshoots aussi, parce que bah du coup, il fallait la synchro labiale et tout. Mmh. Et le film devait sortir en 1940 en France. Il est sorti en 1941 sous l'occupation. Donc le film à ce moment-là, il a clairement été pas occulté, mais il a vraiment très très peu fonctionné. Il a été redécouvert après. Il me semble que c'est parce que la petite fille de Starevitch justement a fait tout un travail de mémoire et tout ça et de restauration de ses œuvres. Et oui, lui, c'est je pense clairement. Un des exemples les plus cités parmi les premiers longs métrages entièrement en stop motion. Voilà.
Ouais. Mais c'est un film qu'il avait d'ailleurs co-réalisé avec sa fille, je crois, avec Irène Starevitch, une petite famille de.
Ouais,
de
bah, cinéma. C'est ça, en fait. Starevitch, il avait un peu ce truc, un peu à la O'Brien qui avait refusé l'Oscar, un peu punk, rebelle de l'industrie, parce qu'il voulait pas tellement en faire partie, il voulait rester très indépendant, travailler en famille, avoir son petit studio et tout ça.
La famille, c'est hyper punk.
Et donc suite à ça, parce que donc du coup, voilà, comme tu le disais, c'est officiellement considéré comme étant le premier long métrage, voilà, entièrement animé en stop motion, qui est d'ailleurs considéré comme français, parce que même si Starevitch il est russe, comme son nom pourrait le laisser penser, le film est considéré voilà comme français parce qu'il a été tourné en France.
Oui, parce qu'il s'est exilé. Ouais, on a peut-être pas précisé à Mathieu. Il s'est exilé en France.
Voilà. Donc c'est grâce à nous. Enfin, c'est bien français. Le premier long métrage de stop motion, on le mérite absolument pas, mais c'est comme ça. Donc voilà. Après ça, est-ce que du coup il y a beaucoup de longs métrages qui suivent cette production là ou pas dans les années 50, 60
Bah en vrai, en Europe de l'Est, ouais, pas mal. Parce que Antoine se foutait de ma gueule quand je préparais la réu et que il me voyait traîner sur les pages Wikipédia du cinéma d'animation tchèque, mais parce que la Tchécoslovaquie a vraiment été un berceau de l'animation en stop motion. Bon là, c'est là que c'est vraiment la boîte de Pandore. Une fois que tu mets ton nez dedans, c'est foutu, tu plonges très très loin. Mais le théâtre de marionnettes a toujours été en fait culturellement très installé en Tchécoslovaquie. Parce que quand il y a eu l'occupation austro-hongroise et la germanification, c'est pas germanisation, je pense. Germanisation, germanification, un de ces deux termes, par l'Empire austro-hongrois, c'était un moyen pour eux, le théâtre de marionnettes, de continuer à parler tchèque, et en gros, c'était en fait un petit geste de révolte politique. Donc, c'est resté très ancré culturellement, là où, par exemple, aux États-Unis et un petit peu plus en France, c'était plus en fait le cartoon américain qui avait pris le pas, et quand on pensait à l'animation, on pensait davantage à l'animation 2D celluloïde que l'animation en stop motion. Et ça a été vraiment en Tchécoslovaquie, dans les pays de l'Est, un vrai terreau pour plein d'expérimentations, notamment à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où évidemment avec le début de la guerre froide, je schématise énormément, mais il y avait cette idée de trouver des alternatives aux cartoons américains, donc en cultivant les trésors nationaux et les savoir-faire nationaux, et la marionnette en faisait partie, et c'est ce qui a donné en fait certains longs métrages de marionnettes absolument dingues. C'est le moment où il va falloir que je prononce les noms de grands précurseurs. Évidemment, il y en a tout plein, mais les deux noms qu'a principalement retenu l'histoire, c'est Jiří Trenka. Il y a pas de voyelle entre le R et le N, donc on va partir sur Trenka, et Bretislava, Bretislav, pardon, Brichislav Pojar, qui voilà, sont deux grands précurseurs. D'ailleurs, j'avais fait un dossier sur les vieilles légendes tchèques, qui avait fait genre 1000 clics, un truc comme ça. Donc voilà, la marionnette et le film de marionnette et de poupée étant vraiment une tradition beaucoup plus pérenne et pas forcément quelque chose d'obsolète, ça s'est beaucoup plus pérennisé de ce côté-là jusque dans les années 60. Et surtout, le cinéma d'animation tchèque a eu un très beau rayonnement international dès le milieu des années 40, en fait dès la première édition du Festival de Cannes en 46, avec un prix pour le dessin animé pour un court-métrage en fait de Trinka. Et ensuite, il y en a eu d'autres. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, l'URSS et certains régimes soviétiques se sont dit « Ah bah ça, c'est cool, c'est nos soft power à nous, en fait, et donc on va le cultiver, tout ça. » Et d'un côté, il y avait les artistes qui, eux... J'imagine que c'était assez délicat de se plonger dans leur état d'esprit, mais bon, d'un côté, t'as le régime qui t'ordonne de faire quelque chose, d'un autre côté, tu dis « Bon, est-ce que ce serait pas l'occasion d'expérimenter, en fait, tout plein de trucs ?» Et de pas forcément... j'ai pas forcément envie de les accuser d'avoir voulu faire dans l'idéologie absolument, la propagande absolument, mais plus de voir ça comme l'occasion, en fait, d'exercer leur art, d'essayer tout plein de trucs avec l'aval du gouvernement et des thunes en plus. Ça, c'était cool.
Bon, un peu comme ils avaient fait les Russes en URSS, Eisenstein et compagnie, c'est la même idée. Hein, de façon,
Oui, voilà. Et encore, je dis ça a commencé en Tchécoslovaquie, mais le moment où ça commence et où ça commence est toujours très poreux. Mais après, ça s'est un petit peu étendu avec la Pologne, la Hongrie, la Russie et tout ça. Et bon, c'est pour ça que je fais le bloc pays de l'Est. Où ça s'est vachement plus pérennisé là-bas, là où, comme je disais juste avant, aux États-Unis, Disney a été fondé en 1923. Très vite, ils ont imposé le style animation 2D celluloïd, et ensuite en 37, Blanche-Neige et les Sept Nains, le long métrage d'animation traditionnel, qui a imposé ensuite des décennies de façon de faire le film d'animation. Mmh. Alors que dans les pays de l'Est, il y avait déjà ce truc où évidemment, il y avait beaucoup d'adaptations de contes de fées, ce genre de choses, mais avec un style plus mature et qui se revendiquait moins enfantin, avec les petits animaux mignons, les chansons, un truc vraiment pensé pour les gosses, marketé pour les gosses. Il y avait une plus grande liberté, je trouve, de ton, de ce qui peut être adapté, même si forcément les régimes autoritaires étaient derrière avec une baguette. Mais c'était un beau terrain d'expérimentation jusque dans les années 60 à peu près.
Mais du coup, oui, la Seconde Guerre mondiale a un peu taclé ça, on va dire. Enfin, un peu, comment dire, a mis un coup du coup à ce développement qui finalement... Enfin, la stop motion plutôt du coup dans le monde occidental, on va dire, dans l'histoire du cinéma occidental, va plutôt connaître un revival un certain temps après la guerre finalement, parce que c'est à partir des années 60 plutôt qu'on a des formats courts pour le coup pour la télévision qui commencent à se développer. Je pense notamment au fameux Rudolph le renne au nez rouge, voilà, le Christmas special qui est sorti aux États-Unis en 1964, donc c'était pour la télé. Je sais pas vous, mais alors moi quand j'étais petite, je regardais des vieilles cassettes de Casimir. Donc Casimir, c'est les années 70.
Non, car nous avons encore notre âme.
Voilà, bah, écoutez, bon, je l'ai perdu à ce moment-là. Voilà. Mais je me souviens, du coup, dans Casimir, il y avait différents programmes, on va dire, différents programmes courts qui étaient passés, comme dans beaucoup d'émissions pour enfants. Et donc, il y en avait un, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais celui avec les pots de fleurs qui discutent, là. C'était de la stop motion. Enfin, du coup, vous voyez pas de quoi je parle.
Tu me regardes, genre, mais tu sais, les pots de fleurs qui discutent, Mathieu.
Mais c'était de la stop motion, en tout cas. Pardon, je suis désolée, il y avait aussi, donc, la Linéa, dont je parlais tout à l'heure, qui est, donc, c'est pareil, plus du dessin animé, où là, on est vraiment sur le principe d'un personnage qui est aussi dessiné en direct avec la main du dessinateur et effacé au fur et à mesure. Et dans les années 90, il y a eu Pingu aussi. Pingu, c'est la stop motion.
Ça, oui. Ça, par contre, voilà. Incroyable, Pingu.
Donc, il y a cette espèce d'âge d'or de la stop motion, mais comme format court télévisuel dans un premier temps. Et aussi, en parallèle, comme... comme format de court-métrage de fiction, plus un court-métrage de cinéma, on va dire, mais dans un format qui reste encore court.
Pingu,
à l'époque.
Pingu, j'ai l'impression qu'il y a un débat
Pingu.
Là.
Alors ça s'écrit avec un U, donc pour moi c'est Pingu.
Ah ouais?
Bah, c'est comme les figolus, tu vois, genre c'est.
Les quoi?
Les figolous?
Non, on dit les figolus, non?
Non, oui.
Ah d'accord, j'ai eu peur, je me suis fourvoyée tout ce temps. J'ai repris des gens et tout.
Ah putain, j'ai toujours dit Pingu. Après, j'ai pas souvent eu l'occasion de parler de Pingu.
Par contre, si ça se dit Pingu et pas Pingu, c'est la honte de ma vie, mais je resterai sur Pingu, j'ai toujours dit Pingu.
Ah, incroyable. Ah, bref. Bref, donc pour les autres formats courts, donc pour le coup, qui sont des cours de fiction de cinéma, entre guillemets, il y a évidemment les Wallace et Gromit, donc réalisés par Nick Park, voilà, parce que c'est les débuts un peu du studio. studio Hardman, parmi les Wallace et Gromit. Alors je sais pas si vous êtes aussi fan que moi, les Wallace et Gromit.
J'aime bien. J'ai pas vu, enfin j'ai vu les vraiment les plus connus quoi, le pantalon ouais. Et
mais le mauvais pantalon.
Le mauvais pantalon.
Donc réalisé en 93, je pense que c'est peut-être le plus grand film de l'histoire du cinéma, voilà.
Si je dis pas de bêtises, c'était assez innovant à l'époque quand même en termes de technique quand même, ils avaient été assez loin. Même si, alors qu'aujourd'hui, on voit Hardman quand même comme un studio qui reste un peu sur certaines traditions, on va dire, oui. De la stop motion. À l'époque, j'ai l'impression qu'ils étaient assez innovants. Ouais.
Mais en plus, il y a tellement de trucs dans celui-là. Il y a tellement d'effets de matière, tellement d'effets de lumière qui sont travaillés avec la scène du vol du diamant dans le musée. Là, mais c'est. Enfin bon, je vais pas commencer à parler de ce film, mais c'est. Bref,
c'est pas dans celui-ci qu'il y a la fameuse séquence avec les rails.
Si, bien sûr, cette séquence est
complètement dingue.
Ouais, c'est le manchot. Incroyable. Donc, bref, voilà, il y a plusieurs formats courts de Wallace et Gromit. Donc, une grande excursion, un mauvais pantalon, rasé de près et sacré pétrin. Sacré pétrin, il est quand même de 2018, donc c'est quand même ça s'est étendu de manière enfin jusqu'à proche de nous quoi, jusqu'à récemment, mais en même temps c'est pas étonnant parce que chacun de ces courts métrages demande évidemment, comme on le disait, beaucoup de temps de tournage. Oui. Parce que la stop motion dans ces années là c'est à peu près 2 secondes utiles de film tourné par jour, donc pour réussir à faire du long, j'aime mieux vous dire que c'est voilà, c'est quelque chose. Et donc en 82 aussi, il y a Tim Burton qui réalise Vincent, qui est son pas son tout premier court-métrage, mais peut-être le premier qui ressemble à quelque chose, qui soit réellement abouti. Voilà, narré par Vincent Price, et qui est peut-être, je pense, du coup, la plus belle chose que Tim Burton ait jamais réalisée. et tout ça, bah alors, toutes ces personnes, on va en parler, mais qui évidemment feront de la stop-motion version longue, enfin en tout cas de format long par la suite, ont commencé par ces formats courts, qui ont été un terrain d'expérimentation aussi de cette espèce de revival de la stop-motion à Hollywood, quoi. Enfin, Hollywood, ou en tout cas dans le cinéma occidental. Et donc, voilà, les formats longs arrivent quelques temps après, parce que donc il y a L'étrange Noël de Monsieur Jack évidemment qui arrive en 93, qui est réalisé par Henry Selick, même si voilà, il y a la guéguerre entre Selick et Tim Burton, parce que il est réalisé d'après un poème de Tim Burton. C'est un projet que Tim Burton voulait réaliser lui-même. Voilà, il a conçu énormément de choses, il est responsable de la direction artistique, enfin d'énormément de choses sur le film. C'est pour ça que ça ressemble vraiment beaucoup à du Burton, et en même temps il a renoncé à le réaliser parce que, comme on le disait, ça prend énormément de temps, et qu'à l'époque il voulait réaliser Batman le défi, et que donc il n'avait pas le temps de se consacrer à la réalisation de ce film-là. Donc il a fait appel à Henry Selick, mais qui est par ailleurs lui-même un formidable réalisateur de long-métrage de stop-motion, donc il a toutes ses raisons aussi de revendiquer la paternité de ce film.
C'est vraiment le poltergeist de l'animation, ce film.
Ouais.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu la même situation finalement, même si c'est pas une question de... Parce que voilà, Poltergeist, c'est une question de...
Je l'ai lancé sur Poltergeist, là, la mauvaise idée.
Vu qu'on vient de me refuser une vidéo sur le sujet, si tu veux.
Hein,
voilà. Mais oui, le problème vient d'avant. Voilà, c'est ça le truc.
Donc il y a celui-ci. Alors, parmi tous ceux qu'on peut citer, hein, dans le désordre, il y a évidemment Wallace et Gromit et le mystère du lapin-garou, qui est aussi un film absolument génial.
Qui est, je pense, mon préféré. Potentiellement mon long métrage en stop-motion préféré.
Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai qu'il est, enfin, il est absolument incroyable. Quelques années avant, il y a eu James et la pêche géante, donc signé entièrement par Henry Selick cette fois-ci, qui est très particulier, très sombre, mais qui justement qui prouve que Selick n'a pas besoin de Tim Burton pour avoir une patte burtonienne, et qu'il a aussi lui-même un style dark et gothique, voilà. Et oui, Tim, tu n'es pas le seul sur cette case. Il y a aussi Shaun le Mouton, qui était un programme court aussi des studios Hardman.
Ouais.
Voilà, il y a des longs de Shaun le Mouton qui continuent à sortir encore aujourd'hui, d'ailleurs.
Il y en a eu deux.
Il y a aussi Frankenweenie, du coup, qui était un court-métrage de Tim Burton en prise de vue réelle au départ, qui datait des années 80, et qui est devenu un long-métrage au début des années 2010, qui, pour le coup, là, il a choisi de passer au stop-motion, justement, pour faire la version longue, et de le réaliser lui-même, cette fois-ci.
Avec un hommage incroyable à Gamera, dans ce film. Voilà.
Ah ouais? Oh, oui. Wow.
Oh, tu parles d'hommage. J'y pense, là, comme ça. Tu sais, la semaine dernière, tu demandais si dans Monstres et Compagnie, c'était pas un immense hommage aux créatures de Ray Harryhausen.
Oui, j'en étais persuadé même.
Ouais, bah, pour le coup, j'ai pas trouvé d'interview qui le dit, mais j'ai rematé le film. Et bah, en fait, le restaurant dans lequel ils vont bouffer, ça s'appelle le Harryhausen.
Je pense que c'est un indice. Voilà, voilà. Pas besoin d'interview dans ces cas-là. Bon, du coup, parenthèse refermée.
Petit détail subtil.
Oui, pardon, je reviens sur ce que je disais, mais du coup, il y avait Frankenweenie, mais en 2005, il y a aussi évidemment eu Les Noces Funèbres. Donc, bref, il y a une sorte d'âge d'or vraiment enfin, hyper puissant, on va dire, hyper prégnant des longs métrages de stop motion, pardon, début, enfin voilà, années 90, début 2000 jusqu'à 2010 environ. Et c'est quelque chose qui marche bien parce que L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est un film qui ne coûte que 24 millions. Aujourd'hui, c'est quand même.
Ça c'est fou quand même, ouais. De se le dire. Tu le revois, tu fais, mais putain, quoi.
Eh ouais, parce que c'est un budget relativement. Bah, c'est modeste pour du long métrage.
Tu dis que les gens ont peut-être pas été payés à leur juste valeur. malheur sur ce film.
C'est possible.
Parce que quand on voit le temps de tournage, enfin, donc 24 millions, il en rapporte quand même plus de 100. Le Lapin-Garou, c'est que 30 millions. C'est vraiment
ça, c'est
pas
aussi.
Beaucoup plus, hein. Ouais. Alors mais, que c'est ouais. quelques années après, quand même.
Précise aussi d'ailleurs que Monsieur Jack a été tourné en 3D ou il l'a converti, je ne sais plus. Mais j'ai eu la chance de le voir en 3D, ce qui est hyper rare, dans un festival de la 3D qui est à Paris, au Club de l'Étoile. Et le film est fait pour être vu en 3D. C'est une merveille en 3D. Si jamais t'as l'occasion, vous avez l'occasion de vraiment le voir comme ça, allez-y, c'est une tuerie.
Génial, tu viens de me créer une nouvelle frustration dans ma vie, quand tu
je suis désolé.
Donc le Lapin-Garou, qu'on a coûté 30 millions, il en a rapporté 192 000. Les Noces Funèbres, 40 millions, on en a rapporté 118. Frankenweenie, on a coûté 39, donc un peu moins que Les Noces Funèbres, on a rapporté quand même 81 millions. Donc on est quand même sur des bons chiffres, enfin même si ceux de Frankenweenie sont un peu moins reluisants, on est quand même sur de quelque chose d'assez lucratif, alors qu'en comparaison, tu vois, des films faits un peu sur les mêmes, la même époque, Ratatouille par exemple, en a coûté 150. Alors il se trouve que certes, il en a rapporté encore beaucoup plus parce qu'il a rapporté 623 millions. Mais 150, c'est plus du double des budgets stop motion qu'on a cités. La Princesse et la Grenouille, par exemple, pour parler d'animation traditionnelle, a quand même coûté 105 millions et en a rapporté 270. Donc on est quand même sur des budgets... Enfin, on pourrait croire que la stop motion ne coûte pas plus cher en fait que les autres types d'animation. Ouais.
Après, léger contre-exemple, les... gros film de Leica, quand ils ont commencé à s'enhardir un peu, ça a commencé... Bah déjà, dès Coraline, on est à 60 millions de budget. Ça commence à bien grimper. Et je, bon, évidemment, il y a le point de rupture qui a été Monsieur Link, qui a un bide stratosphérique, pardon, qui a coûté 100 millions de dollars, quand même.
Ce qui est énorme.
Là, ils ont été trop loin, là.
Bah alors, du coup, effectivement, c'est un peu le point de rupture, en fait, Coraline, du coup, donc, qui est réalisé d'après le roman de Neil Gaiman, et donc par Henry Selick, donc le papa dans Les Tranches de Monsieur Jack et de James et la Peste Géante. C'est la naissance, du coup, de ce fameux studio, Laika, et qui est donc un studio spécialisé dans l'animation en volume. Coraline, c'est un film qui a nécessité 52 plateaux et 130 décors fabriqués à la main, avec en plus plein de petits détails un peu savoureux dans le décor, parce que le film est extrêmement... propre entre guillemets, quand on le voit, il est très lisse, il est très tout semble vraiment conçu, enfin fabriqué, on va dire, vraiment pour le film. Il n'y a pas du tout un aspect de récup comme il peut y avoir dans d'autres films de stop motion. Pourtant, en fait, dans le décor, il y a plein de choses qui sont faites avec, enfin qui sont faites de briques et de broc, mais simplement le résultat est hyper joli, hyper pro, donc voilà, ça se voit pas tellement. Donc là, c'est pareil, c'est un peu un nouvel aboutissement de la stop motion. De voilà, on est capable de faire ce format long encore aujourd'hui, même des années après Les Tranches de Monsieur Jack et sans Tim Burton. On peut faire des choses aussi magnifiques en stop motion et pourtant en fait le problème c'est qu'à partir de ce moment-là justement la stop motion se laisse gangréner on va dire par le numérique.
Oui, gangréner c'est un grand mot. Je pense que Leica c'est vraiment une très bonne façon d'en parler parce que bon c'est un peu le studio roi artistiquement en tout cas de la stop-o parce que finalement aujourd'hui il reste Aardman et Leica et c'est vraiment deux sortes de grands pôles de la stop motion grand public on va dire. Et oui, bah voilà, comme tu le dis, Coraline. Alors, le studio existait avant, je pense, mais il s'appelait pas Leica et c'était, il faisait de la pub, en stop motion. Parce que la pub est très friande de stop motion, on en a pas parlé, mais
oui, c'est vrai,
ils adorent ça.
Bah dans l'Europe de l'Est, il y en a plein qui ont commencé comme ça, en fait, avec des spots publicitaires.
Il y a beaucoup d'animateurs, j'ai cru comprendre, qui se faisaient beaucoup d'argent avec ça.
Bah, tu me diras, Pixar a commencé comme ça aussi, en faisant des pubs.
Bref, et ils sont passés au long, notamment via le truc de Gaiman et Selick. Et c'est vrai que. Le truc de Leica, c'est qu'ils ont pas reculé face à l'évolution du médium en règle générale et même de l'animation en règle générale, parce qu'il y a vraiment, on voit dans leurs films l'implémentation du CGI et du numérique qui vient se poser un peu par-dessus. Je pense que l'exemple le plus intéressant et le plus intéressant vraiment, c'est Kubo.
L'armure magique.
L'armure magique. Film qui est visuellement absolument somptueux. Enfin, je pense que
les
là, il y a vraiment
les scènes
personne
dans l'eau
qui peut dire.
Sont incroyables. Genre, vraiment.
Et donc, comme souvent, la stop motion à ce moment-là est vraiment devenue. Enfin, à partir de ce moment-là, est vraiment devenue un argument marketing comme d'autres, dans le sens où, oui, effectivement, il y a un travail de dingue derrière et c'est un truc qui est beaucoup mis en avant. Sauf que Kubo est effectivement d'abord un film de stop motion, sauf qu'il repose beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les effets numériques. Donc, c'est un mélange de techniques qui est assez louable et qui, je trouve, hein, fait des films Leica vraiment des films uniques en leur genre. Enfin, franchement, c'est assez dingue.
C'est vrai qu'ils ont un peu ce saut gage de qualité.
Ouais,
c'est un Leica, quoi. C'est comme quand tu vas voir
Et ouais, c'est sur Kubo justement que Travis Knight, qui est donc le réalisateur, mais aussi un des cofondateurs de la version cinéma, on va dire, du studio, qui disent que Leica est un studio qui a appris à embrasser le CGI, il le dit comme ça. Ils se sont fait convaincre, en fait, ils se sont laissés convaincre d'utiliser le CGI pour tout ce que la stop motion ne peut pas faire, parce qu'il y a plein de trucs qu'elle peut pas faire. Et le plus évident, c'est la flotte ouais. et la stop mo, c'est, ils sont ennemis, quoi, ça ne peut pas fonctionner, à moins. Alors des fois on a des substituts avec cette sorte de gelée là qui est parfois utilisée, mais dans le cas de grandes surfaces d'eau, ça peut pas fonctionner. Et Kubo, de toute évidence, la flotte, même si ils se sont amusés entre guillemets à digitaliser des trucs faits à la main, etc., pour créer une mer, évidemment qu'il y a beaucoup de CG pour tous les gigantesques arrière-plans, pour rajouter des figurants numériquement, et eux précisent que leur originalité, on va dire entre guillemets, même si c'est pas tant que ça une originalité, c'est que tout ce qui existe en numérique existe aussi en physique. En fait, ils créent des références, et certes, ils les utilisent peut-être pas en tant que stop motion, mais ça reste des références tangibles pour que les animateurs VFX puissent, eux, faire leur travail derrière. Et moi, je trouve le résultat est en fait absolument incroyable. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'un problème? Je ne sais pas. En fait, le truc, c'est que est arrivé d'ailleurs, c'est fini, à la stop motion, ce qu'on reproche souvent aujourd'hui à l'industrie du cinéma grand public numérique, on va dire, dans les effets spéciaux, c'est-à-dire le mythe du tout pratique. C'est-à-dire que c'est tellement simple de dire au spectateur, si c'est tout pratique, eh ben c'est mieux. Et du coup, nous, on fait tout pratique. Bon voilà, Antoine pourrait te parler des heures de tel réalisateur qui débarque en promo, qui fait « Ah ouais, ça, bon, on l'a fait entièrement à poil, dans des cavernes, avec des bouts de bois, quoi. » Alors que dans la réalité, non, enfin, je veux dire, Top Gun Maverick, c'est, je sais pas combien de milliers de plans truqués, etc. Et que ces mecs-là ont tout intérêt à cacher la simultanéité des techniques, parce que ça fait beaucoup mieux de dire qu'on a failli tout pratique, parce que le numérique a mauvaise presse, alors que c'est la raison qui fait que les films ont autant de gueule aujourd'hui. Et c'est un peu pareil avec la stop motion. Je pense que toi, il y a un exemple qui te tient à cœur, Judith, c'est le Pinocchio de Del Toro récemment, où ils ont beaucoup fait la promotion autour de la stop motion, qui est évidemment très importante dans le film, et il y a des séquences de dingue. Mais évidemment que le film a été... il y a une grande partie de CGI dedans.
Avant de nous embarquer dans Del Toro, pour le coup, je reviens un instant sur Coraline, où moi je me disais, c'est vrai qu'à l'époque où j'ai vu le film au cinéma, j'étais pas encore aussi renseignée sur ce sujet, j'étais jeune et stupide, mais il y a notamment... Donc pour moi, effectivement, je pensais voir un film entièrement en stop motion, et en même temps, clairement, dans Coraline aussi, il y a un exemple quasiment aussi probant que celui de l'eau, enfin, tout aussi probant, c'est celui des spectres, en fait. Il y a des... Ouais. Voilà, il y a de la transparence...
Et c'est super drôle parce que c'est exactement ce que j'avais ressenti là sur le dernier Wendell et Wilde. Je sais pas si vous l'avez vu, de Selig, qui est sorti sur Netflix.
La réputation du truc était tellement tiédasse que je me suis dit, alors, je le repousse tout le temps, c'est le visionnage.
Ouais, en vrai, je l'ai trouvé aussi dans la globalité assez tiédasse, mais j'ai trouvé que, par exemple, l'implémentation dans l'histoire d'un homme trans, tu vois, d'un adolescent trans, par exemple, c'était quelque chose qui était fait de façon tellement naturelle que ça valait le coup de le voir. Et il y avait aussi ce truc de, dans le film, il y a des spectres, les spectres sont clairement numériques. Et sur le coup, j'ai eu un petit peu la réaction... que je trouve un peu idiote, de rejet, en mode « Oh, c'est dommage !» Et après, en fait, j'y ai re-réfléchi. Et même en préparant la réu, je me suis rendu compte que c'était tellement une inversion assez folle, parce qu'au départ, la stop motion était utilisée justement pour animer des objets comme s'ils étaient... comme s'ils s'animaient tout seuls, en fait, et comme si, en fait, il y avait une force surnaturelle qui était là en présence et qui les faisait agir. En fait, c'était vraiment pour créer un sentiment de surnaturel, d'étrangeté, de ceci n'est pas normal, et que du coup, dans un film en stop motion, maintenant, l'étrangeté, le surnaturel, soit représenté non plus par la stop motion, mais par le numérique, je me suis dit, tiens, c'est encore un pas franchi, encore une hybridation des techniques. En fait, ça raconte finalement quelque chose. Et encore une fois, oui, c'est vrai que c'est bête de se dire, bah non, en fait, faut se priver du numérique, il faut absolument tout faire à la main parce que c'est gage de qualité. C'est aussi débile que de prendre une photo et dire, regardez comme elle est belle, je l'ai pas du tout retouchée, comme si la post-production, c'était pas du travail, c'était pas artistique, il y avait pas une réflexion derrière, une vision, enfin.
Alors oui, mais moi, je vais faire un peu la vieille conne, mais je veux dire, parce que je suis d'accord avec vous, et voilà, j'adore Coraline par exemple, et donc ce mix, je trouve qu'il est très très réussi dans Coraline. Mais Wendell et Wilde, tu vois, pour le coup, moi, j'ai vraiment pas beaucoup aimé le film. J'ai trouvé trouvé qu'il avait plein de super intentions et plein de super idées, mais la réalisation m'a vraiment laissé sur le carreau. Et l'une des raisons principales étant que j'ai trouvé ça moche, en fait. Genre, et pourtant, je trouve jamais les films de stop motion moches. Et là, j'ai trouvé que vraiment, en termes de direction artistique, c'était super pauvre, que les décors étaient... Et tu vois, pour le coup, il y a un côté vraiment extrêmement lisse, extrêmement... comment dire, ouais, je sais pas, trop lisse, trop propre, et en fait, il y a une impression générale de pauvreté dans la direction artistique et dans les décors. Je sais pas, pourtant, il y avait plein de supers idées, hein. Mais là, pour le coup, je trouve qu'on perdait complètement l'effet dont je parlais, plus tôt sur L'étrange Noël de Monsieur Jack ou les Ray Harryhausen, etc. Mais, le côté, en fait, on croit à cet univers. Là, il y a tellement de couches, de lisseurs, numériques, etc., qu'en fait, là, moi, j'arrive plus à rentrer ça, j'arrive plus à avoir l'impression qu'on me présente un univers qui existe, en fait, et je suis complètement restée en dehors. Donc l'alliage, je veux bien, mais pas trop, quoi.
Je comprends totalement, parce que encore une fois, j'ai pas adoré le film, hein, je l'ai trouvé quand même assez moyen, mais avec, comme tu dis, plein de belles attentions. Et c'est vrai que ça aussi, je l'ai ressenti, le fait de vouloir en fait gommer tout ce qui fait la spécificité de la stop motion.
Ben ouais.
Ça, à la rigueur, l'emploi du numérique, encore une fois, vraiment, j'ai plus envie d'être dans ce truc de non, c'est dommage. Mais par contre, le fait de gommer les petites irrégularités, vraiment tout ce qui donne son sel à la stop motion, j'ai trouvé ça aussi dommage. Et c'est pour ça aussi que je pense que j'avais autant aimé, adoré même Interdit aux chiens et aux Italiens, parce qu'on était beaucoup plus dans la stop motion à ses premières heures, en fait, où on assume complètement l'artificialité de cette animation, les petites saccades, le fait que oui, d'un endroit à l'autre, le cheveu en laine, il soit pas exactement placé au même endroit, les petits faux raccords, parfois tu vois les pas les traces de doigts, mais en gros la forme du doigt de l'animateur,
ouais.
Sur, enfin, comme les pâtes à modeler avant, quand on voyait les empreintes digitales dessus,
ouais.
Enfin, vraiment le côté, encore une fois, cinéaste qui joue avec ses petits personnages et ses petits pantins. Là, on l'a vraiment retrouvé dans Interdit aux chiens et aux Italiens, ce qu'il y avait pas dans Wendell et Wild,
ouais,
malheureusement. Le côté, en fait, artisanal qui existe toujours, mais qui, paradoxalement, essaie d'être lissé en post-production le plus possible.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Après, je trouve que c'est une utilisation du numérique qui n'est pas tout le temps la même, et j'en veux pour... Enfin, je veux dire, je pense que tu peux créer l'imperfection avec le numérique et justement retrouver un feeling de stop motion avec le numérique. Et l'exemple le plus impressionnant pour moi, enfin qui m'a le plus marqué, c'est The Lego Movie. À votre avis, The Lego Movie, c'est combien de pourcents de stop-mo et combien de pourcents de CG?
Waouh, quel col. Je me rappelle qu'il y avait, je crois, ils avaient utilisé, je crois, à peu près 1500 briques réelles pour les trucs. Du coup, ça laisse quand même une grosse part de CG, j'imagine.
Moi, je me rappelle que je ne l'ai pas vu.
Allez, vas-y, statistique à la louche. Bon, je sais pas, 30% pratique.
Ouais, non, en fait, il n'y a que le générique qui est en stop motion.
Mais non.
Arrête.
The Lego Movie, c'est 100% CG.
Mais du coup, les petites briques...
En fait, ils ont tout construit pour pouvoir s'assurer que l'univers qu'ils fabriquaient était fabricable. Mais ils ont calculé que s'ils le faisaient en stop motion, ça leur prendrait 10 ans de développement. Du coup, ils ont tout fait en CG avec un logiciel que tu peux télécharger gratuitement. Parce que du coup, ils ont utilisé le logiciel que Lego a mis au point pour fabriquer numériquement, en gros, tester des positions d'objets, enfin fabriquer des objets en ligne, en fait. Et ce logiciel, tu peux le trouver gratuitement. Et eux, ils ont designé les choses avec ça. Donc techniquement c'est possible, et le niveau de détail hallucinant que t'as sur les briques, où tu vois les imperfections sur la tête des briques et tout, qui était vraiment un effet qu'ils voulaient donner pour que ce soit des vraies briques, et c'est du CG,
c'est
la texture, quoi, et c'est impressionnant. Et t'as cette idée maintenant, je trouve, qui est intéressante, qui est qu'ils se sont vraiment beaucoup inspirés des brick films, comme on dit, donc les court-métrage amateur fait avec des Lego en stop motion. Et en fait, ils ont récupéré le feeling, en fait. Ils n'ont pas récupéré la technique. Et c'est assez sidérant. Il y a même des références, genre le fameux de tunnel qu'ils utilisent pour, tu sais, aller dans le vrai monde, mm-hmm. dans The Lego Movie. C'est une référence à un brief film assez connu, apparemment, que moi, je n'ai pas vu. Et du coup, il y a vraiment cette idée de... On assimile le Lego à la fabrication homemade, à l'invention, comme ça. Et du coup, ils ont quand même été sur le numérique parce que ça les a rangés. Mais d'un point de vue visuel, ils ont mimé, on va dire, la stop motion. Et c'est là que je trouve que ça devient sidérant, fascinant. C'est que la stop motion, c'est plus seulement une technique, mais carrément une esthétique avant d'être une technique.
Ouais, mais ça, moi, ça m'énerve.
Oui, mais en vrai, dans The Lego Movie, c'est du génie, pour le coup, la manière dont ils l'ont fait.
Moi, je voyais surtout au niveau des visages. Bon, là, tu dis, bon, la façon dont c'est... Ils sont pas encore sur la méthode de substitution, donc... Genre t'as un personnage et tu peux retirer des parties de son corps pour en mettre d'autres avec d'autres expressions et tout ça. Voilà, c'est Georges Pal d'ailleurs dont on parlait avant qui a inventé ça. Mais c'est vrai que, ne serait-ce que pour les décors, je pensais réellement et naïvement qu'ils étaient en dur. Du coup c'est beau la magie du cinéma de se faire encore berner.
Ah ouais, mais tu vois, enfin moi je trouve ça ouf parce que même si ça peut donner des choses bien comme l'exemple que vous donnez, en soi tu vois, l'essence de la stop motion c'est que cette esthétique elle découle d'une nécessité, tu vois, de bah en fait matériellement ça se fait comme ça, donc oui il y a un effet saccadé, donc c'est comme ça et on compose avec et ça crée quelque chose et ça donne une identité, une texture, un relief, on va dire. Après quand ça découle plus de la nécessité de la matérialité de ton effet, recréer ça, je trouve qu'il y a une sorte de cynisme et de vacuité derrière ça qui me... Oh.
En fait, je suis tellement d'accord avec vous deux en même temps, genre parce que genre sur Lego Movie...
Il y a deux manières de le faire, en fait.
Lego Movie, c'est super bien fait, j'achète. Par exemple, c'était un film sur Netflix qui s'appelle La famille Willoughby, veut se donner une esthétique de stop motion, mais là où le numérique est pas assez poussé pour qu'on ait vraiment ce mimétisme incroyable. Et j'ouvre la bouche en mode « Mais non, c'est du numérique !» Là, ça se voit vraiment, vraiment que c'est du numérique. Et c'est clair que là, sur l'esthétisme, où t'as encore une fois les cheveux en laine, ce genre de truc. Donc voilà, où ce film, La famille Willoughby, en plus, j'étais vraiment schizophrène devant le film, parce que d'un côté, j'aimais beaucoup l'histoire. D'un autre côté, vraiment, cette uniformisation, ce côté très lisse, et le pourquoi vouloir ressembler à de la stop motion sans faire de la stop motion. C'est un petit peu le même débat que pourquoi vouloir faire du fan footage sans être du fan footage. Là, c'est exactement la même chose. Pourquoi ça devient une esthétique, mais on renie complètement la technique et on refuse de la faire et on passe par le tout CG, quoi. Ça m'énerve.
Oui, je suis d'accord. Mais après, voilà, comme je disais, c'est mon côté vieille icône un peu. Moi, je suis un peu genre, moi, j'aimais Ray Harryhausen et puis voilà.
Regarde Lego Movie, tu vas voir à quel point ça s'implémente dans la narration.
Ouais, mais maintenant, elle le sait, je trouve que ça m'a tout gâché. Oublie ce que Mathieu a dit, regarde-le.
D'accord.
Et après, rappelle-toi que c'est du CG et hallucine.
Mais oui, non, pour revenir un peu à ce que tu disais sur l'ambiguïté qui est maintenue par la communication, par la promotion des films, autour de justement faire croire qu'on fait du tout stop motion, comme si effectivement, comme tu le disais, c'est un gage de qualité parce que c'est fait main, etc. Je sais pas pourquoi est-ce que ça... Pourquoi il y a ça aussi dans l'animation, cette espèce de phobie du CGI? Peut-être parce que en parallèle, dans l'industrie des effets spéciaux, en ce moment, on assiste à ce que les CGI font de pire. Enfin, les CGI, encore, c'est un terme extrêmement flou, mais je veux dire, à ce que les effets, la modélisation numérique apporte de pire avec Marvel, etc. Vraiment, où, en fait, le concept même d'effet spécial numérique digital se fait complètement bâcher tout le temps. Parce qu'en fait, les exemples grand public nous offrent en ce moment vraiment ce qu'il y a de pire à voir. Et encore une fois, on sait que c'est pas la faute des artistes eux-mêmes, mais la faute de délais et de conditions de travail qui leur sont imposées. Mais du coup, c'est comme si, en parallèle, en fait, il fallait nier l'existence de tous les effets numériques, justement, précisément aussi quand ils sont bien faits et quand ils ne se voient pas, pour mentir, en fait, et donc mettre en avant le côté fait main. Et donc, oui, comme tu le disais, c'est tout à fait ce qui s'est passé lors de la promotion du Pinocchio de Del Toro, quoi.
Ouais, les photos de Del Toro avec son petit Pinocchio dans les mains devant son décor, on les a tous vues, elles ont été matraquées dans tous les sens.
Mais il est tellement mignon, je l'aime tellement.
Et là, bon, non, mais pour le coup, après, c'est vrai qu'il y a quand même aussi un énorme travail de stop motion où, du coup, c'est une marionnette pour laquelle il a fallu imprimer en 3D je ne sais combien de visages différents
même technique que Leica d'ailleurs aussi, qui, je conseille le Making of de Paranorman, qui est selon moi leur meilleur film, où ils te montrent tous les faciès du personnage principal. Et c'est ahurissant, ils ont une bibliothèque géantissime de tronches qu'ils doivent changer à chaque fois. C'est dingue.
En fait, c'est tellement le principe, genre le nouveau principe numérique de la substitution où avant en fait c'était juste des petites pièces que tu détachais comme un monsieur patate un peu, tu
oui,
sais,
oui.
Genre que tu formes des formes au lieu de devoir avoir une chronologie où du coup bah t'es beaucoup plus libre dans ta narration parce que d'un coup ton personnage il peut avoir des bras puis plus de bras puis re-avoir des bras et t'es pas obligé de bah faire toutes les scènes avec bras puis sans bras et puis après bon bah il a plus de bras donc c'est comme ça, enfin.
Une fois que t'as arraché toutes les pattes de tes scarabées morts, là, voilà. Voilà.
Mais, et d'ailleurs, dans ce que tu disais pour les gens qui préfèrent le CG et tout, il y a un exemple, j'ai l'impression, qui me vient en tête, là, comme ça. Et je me demande s'il n'y a pas aussi un peu comme Monsieur Ling, désormais, pas fait un peu autorité, on va dire, dans le milieu, qui est Souris City, qui est le film de Hardman qu'ils ont fait en CGI, pas en mimant, parce que ça se voit, mais ils reprennent leur même style, et ils animent quand même les personnages beaucoup comme de la stop motion, je pense à la genre de limace, là. Et le film s'est planté, si je dis pas de bêtises, et on a vraiment cette idée de, bon bah voilà, l'incursion de Hardman dans le CG, tout en gardant les caractéristiques de la stop motion, les gens n'ont pas aimé du tout, et ce qu'ils aiment chez Hardman, c'est que, en fait, ils préfèrent au film Hardman, les making of Hardman, où tu vois les timelapses des mecs qui sont en train de fabriquer, voilà, ces gromites. Parce que oui, c'est fascinant. Enfin, s'il y a quelque chose de complètement hypnotisant derrière, et il y a un côté peut-être presque un peu réa que je trouve par rapport à, c'est le même problème qu'avec les effets spéciaux, de toute façon, où bon, bah, quand on était petit, on aimait bien, donc c'est que c'est le mieux, quoi.
Bah voilà, oui, bien sûr.
Mais Hardman, c'était quoi? C'était il y a quelques mois, là, où justement, il y avait une news qui avait affolé tout le monde en disant plus de pâtes à modeler et tout.
C'était horrible, putain, j'ai vraiment
cru. Et du coup, ils ont quand même réussi à implémenter dans la tête des gens que oui, nous, on continue à travailler avec de la pâte à modeler, qu'on forme et tout, donc c'était quand même un coup assez génial. Mais ouais, le crash de Souris City, franchement, c'était moche parce que déjà, le film,
C'est très sympathique.
Ouais, il est franchement
d'accord.
Bien. Et surtout, c'était la collaboration de Hardman et de DreamWorks. Et ils devaient encore faire d'autres films après parce qu'il y avait eu Chicken Run avant. Et c'est pour ça que là, le Chicken Run 2, il est sorti sur Netflix et pas distribué par DreamWorks parce que, en fait, DreamWorks a été un petit peu sans pitié en mode, on met fin à la collaboration parce que le film a pas fonctionné.
Encore une fois, Chicken Run 2, film que, j'ai adoré, bien sûr, mais qui, j'ai l'impression, revendique une approche anti-Leica un peu. C'est-à-dire que il revendique vraiment les décors tout petits, l'artificialité du truc. Enfin, je veux dire, le décor se passe à moitié entre une sorte de base de Mission Impossible dont on va voir surtout l'intérieur et là où vivent les poulets, qui est une toute petite île, toute mignonne. Et même à l'intérieur du château des méchants, quoi, c'est une zone extrêmement artificielle, tout en plastique. Bon, alors, c'est le sujet du film, parce qu'évidemment, ça parle de... Enfin, c'est Chicken Run, quoi. Mais ouais, il y a un côté... ils assument le côté microscopique, dans le sens microcosme de leur univers. Et bon, ça continue à fonctionner. Hein. Vraiment, le film est,
est
jouissif. Mais ouais, il y a un côté... face à cette débauche de moyens qui, de toute façon, ne peut que aller dans le mur, parce que comme on l'a vu avec l'exemple Lego Movie, il y a, à bout d'un moment, la stop motion, il y a des grosses limites techniques de temps et d'argent. l'un et allant avec l'autre. Et eux, ils continuent à dire, et si on continue à faire des petits films? Voilà.
Oui, mais donc effectivement, c'est à se demander, tu vois, puisqu'on parlait justement du fait que la stop motion a quand même encore un attrait aujourd'hui dans l'œil du public et des critiques, pourquoi est-ce qu'on... Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus? Surtout maintenant qu'on se permet justement de faciliter la stop motion avec du CGI, pourquoi est-ce qu'on n'en réalise pas plus des longs métrages? Parce que je vois par exemple le Guillermo de Del Toro, le Pinocchio de Del Toro, il a coûté entre guillemets que 35 millions, donc on reste sur des budgets modestes.
Ouais, alors que c'est un film qu'il a proposé partout.
Ouais, qu'il a galéré à faire.
Le concrétiser, ouais.
Voilà.
Et il arrive sur Netflix où il est. Alors, moi, j'ai eu la chance de le voir en salle. Je peux vous dire que c'était super.
Bah, probablement aussi que les studios sont pas rassurés à l'idée d'un film en stop motion parce que ça peut avoir. J'imagine, j'extrapole totalement et là, on est. PMU, comptoir cinéma, mais j'imagine un petit peu cette image intellectuelle du cinéma d'animation, quelque chose qui est peut-être moins accessible, qui est plus sombre, parce qu'au final, dans les exemples, on rapproche ça encore de Tim Burton et Henry Selick, donc ils sont des esthétiques plus sombres, donc peut-être que les parents qui sont ceux qui décident de ce que regardent les enfants n'iront pas montrer ça aux enfants, peut-être qu'il faut quelque chose de plus coloré, de plus dynamique, du Disney, du machin, donc j'imagine qu'il y a ça, et... Je le vois aussi comme une réappropriation de certains cinéastes et presque comme un geste politique, voilà, le terme est lancé. Mais bon, bon, évidemment, l'art est politique, le cinéma est politique, on va pas ouvrir cette brèche.
Avec Rollard, il veut tout politiser, même les poulets en stop motion.
Mais bon,
surtout les poulets en stop
motion. Je vais pas me remettre à me parler de mes courts-métrages d'Europe de l'Est et tout ça, mais il y en a énormément aussi qui parlaient de nazisme, de DSS, des régimes autoritaires, donc vraiment, il y a un ancrage politique évident, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est encore le cas, qu'il y a une récupération. J'ai envie de parler de Wes Anderson, du coup je vais parler de Wes Anderson, mais qui
Edouard
a
anarchiste.
mais qui a cette image encore de cinéaste quand même qui trouve assez peu d'équivalent, parce que il est quand même très libre de sa création. Il a encore ce côté comme les artistes de stop motion qui beaucoup étaient des touches à tout, qui confectionnaient les marionnettes, qui souvent faisaient les accessoires, qui faisaient l'animation, qui faisaient en fait qui portaient le projet, qui avaient quand même un contrôle assez prégnant. Et je crois d'ailleurs que c'était Willie O'Brien qui s'offusquait un peu de l'industrialisation de la stop motion, parce que du coup les dessins commençaient à passer par de plus en plus de mains et la vision qu'il en avait était de plus en plus dénaturée. Et quand on prend un exemple comme Wes Anderson aujourd'hui, qui est totalement dans ce contrôle fric et de vouloir un petit peu avoir l'image du cinéaste qui fait tout de A à Z, même si évidemment il ne fait pas tout de A à Z, il est quand même là sur quasiment toutes les étapes de son film, que ce genre de cinéaste s'approprie la stop motion, j'y vois, oui, quelque chose d'assez politique et qui peut effrayer quand tu proposes un film grand public, tout public pour les enfants stop motion, genre oula, qu'est-ce que je vais aller voir.
Ouais, je pense que les grands studios ont finalement pas trop intérêt à rentrer dans cette industrie-là, qui est vraiment une industrie du temps qui s'écoule, qui est vraiment la chose qu'ils détestent le plus, et qui, comme tu le dis, en fait, a quelque chose d'extrêmement personnel. C'est pas du tout... C'est difficile de dépersonnaliser la stop-motion. On sent, on voit presque les traces des doigts des gens qui l'ont faite. Et c'est la raison aussi pour laquelle c'est vrai que je trouve que récemment, c'est une technique qui a vachement été utilisée de manière expérimentale, mais vraiment dans le sens premier du terme. Alors, je pense évidemment à Tetsuo, qui valait le casse, mais qui utilise beaucoup de stop-motion pour fabriquer cette sorte de vision de Tokyo complètement bizarroïde, technoïde, dégueulasse, qui grouille de partout. Assez original, unique et complètement invendable, évidemment. Et ouais, c'est souvent le cas. Bah, tu parlais de les chiens et les Italiens, interdit aux chiens aux Italiens.
Les chiens et les Italiens.
Non, mais qui est un film que j'ai aussi beaucoup aimé et qui est également foncièrement politique, puisqu'il parle évidemment de discrimination. Et là, pour le coup, la personne qui est le fait est dans le récit. Enfin, la stop motion est un moyen de complètement personnifier l'histoire.
Et du coup, on revient à l'essence même de la stop motion, où les réalisateurs ou réalisatrices avaient l'habitude de se mettre en scène soit comme personnage, soit comme réalisateur et créateur. Et donc, on poursuit ça, et je trouve ça, mais super beau, en fait.
Ouais, un truc qu'on retrouve un peu, je trouve, dans la stop motion aujourd'hui, mais pas sous la forme de cinéma dans le sens général du terme, mais sur YouTube, quoi. Il y a plein de gens qui font des trucs en stop motion de dingue. Alors, moi, il y a un créateur que j'aime bien qui s'appelle Lee Hardcastle, que j'ai découvert parce qu'il a été dans un. Il a fait le court-métrage dans The ABC of Death, qui a beaucoup de court-métrages en stop motion dans ses films, qui s'appelait Tea for Toilet et qui était très marrant. Et qui il parodie pas mal de films d'horreur et tout sur sa chaîne, et c'est hyper intéressant. Et il y a une manne de créativité qui vient de là, parce qu'on revient à un art qui peut se faire presque tout seul. Et j'en viens, je pense, à l'exemple peut-être ultime en la matière qui nous est arrivé il y a quelques années en France, enfin il y a quelques mois même, je sais plus, qui s'appelle Junkhead. Et Junkhead, c'est quoi? C'est un mec, il s'est dit, il était un peu vieux, il s'est dit, en fait, moi j'ai envie de faire de l'art, j'ai envie de faire du cinéma, mais le problème du cinéma, bah, c'est qu'il faut des gens. Et j'ai pas envie de bosser avec des gens. Et il s'est inspiré de quelqu'un qui avait fait un film tout seul aussi. Et il a cherché sur Internet, en mode, comment je peux faire un film sans vraiment de connaissances techniques, du moins en apprenant sur le tas. Et il a vu l'animation en volume, et du coup, il a animé une demi-heure de film sur 4 ans de sa vie. Et ensuite, le projet il s'est développé, il a engagé une petite équipe, et le film de 1h30 nous est arrivé aujourd'hui. Il a eu planifié une trilogie carrément. Et Junkhead, c'est dingue, parce que c'est vraiment... on sent la personnalité du gars chez chaque détail, chaque référence, chaque petit bout, c'est muet, c'est d'une simplicité déconcertante, et c'est incroyable.
Mais ça peut pas être paresseux. Exactement. Contrairement à l'animation par ordinateur ou qu'on peut avoir aujourd'hui, où parfois on peut trouver que franchement c'est paresseux. Je pourrais jamais par essence trouver un film de stop motion, même s'il y a des inserts numériques, paresseux. Je sais que là c'est quelque chose qui a été confectionné, peut-être pas pour moi spécialement, mais en tout cas qui a été confectionné, et c'est beaucoup plus facile, je trouve, de pardonner les petits défauts et tout ça d'un film en stop motion, vu qu'il y a vraiment ce tampon, ce gage qualité artisanal. Tu sais, c'est quand même genre, ouais. Je sais pas, quelqu'un qui va faire un fromage lui-même ou un pâté lui-même, même si c'est pas très bon, tu dis putain, il l'a fait tout seul quand même, c'est fort.
C'est ça le terme en fait, la stop motion, c'est vraiment la résistance.
Le pâté du cinéma, quoi.
C'est la résistance de l'artisanal dans l'industrie finalement, oui. Tu vois. C'est ça, c'est dans une industrie, américaine où on peine, même en s'y connaissant un peu, à commencer à retrouver à qui a fait quoi sur ce panneau gigantesque de noms qui se termine chaque film. Là, retrouver vraiment un artisanat au sens premier du terme, quoi, vraiment le terroir, quoi. c'est assez sidérant. Il y a vraiment, c'est vrai, un acte de résistance là-dedans, non seulement dans la technique, mais dans le temps passé. Et bon, bah, Matt God, hein, évidemment.
Parce que voilà ce que j'allais dire, parce qu'on le citait hein, du coup au début de la réunion de la semaine dernière, mais effectivement, Matt God, du coup, c'est un film qui est sorti récemment en salle chez nous. C'est 2022 ou 2023 2023, je crois.
Il était dans le top 2023.
En fait, il a fait un tour en festival qui était un peu long, donc c'est un peu vague.
Mais c'est un film qui a pris quoi? Qui a pris 10 ans?
Une trentaine d'années. En fait, il a commencé à bosser dessus. Donc, c'est Phil Tippett, hein, donc, dont on parlait la réunion précédente. Il a commencé à bosser dessus après Robocop 2, il me semble, parce qu'il avait déjà fait un court-métrage qui est excellent d'ailleurs et qui est très facile à trouver, qui s'appelle Prehistoric Beast, que je vous conseille. En fait, il a commencé à bosser dessus et est arrivé le Jurassic Park et il s'est dit, ça sert plus à rien, c'est fini. Du coup, il a arrêté et c'est une quinzaine d'années plus tard, enfin bien des années plus tard, qu'un de ses étudiants, du coup, à Tippett Studios, lui a dit, il a retrouvé en fait des morceaux de son projet, des maquettes, etc., et qui lui a proposé de le refaire. Il y a eu crowdfunding, etc., et il s'est retrouvé à finir Matt God encore sur des années, bien sûr. Et en fait, dans ce film, il y a un truc que moi j'adore, c'est qu'on voit la différence d'instruments de captation. Il y a des sections du film, on voit qu'elles n'ont pas été captées avec la même chose que le film précédent. Et alors, non seulement c'est le sujet du film qui est un genre d'enfer steampunk chelou, dégueulasse, de guerre et d'horreur, et en plus, c'est unique au monde. Enfin, ce film est unique. Il y a personne n'arrivera à le refaire, à moins d'y repasser 30 ans de sa vie. Et même avec ça, c'est pas certain qu'il y arrive. Et c'est ce côté caché, comme tu dis, qui mine de rien fait de la stop motion une technique qui est encore hyper pertinente aujourd'hui. Plus presque encore, enfin, de plus en plus, finalement, dans un monde où on dépersonnalise de plus en plus les outils numériques au point carrément d'effacer l'humain derrière, hein, avec les IA. Ça devient, ouais, un vrai outil de résistance.
Bah c'est pour ça que, parce que je reviens encore à Wes Anderson, parce qu'on a quand même pas, on n'a pas cité le nom de ses films, mais Fantastic Mr. Fox et L'île aux chiens, qui sont quand même cités parmi les meilleurs films en stop motion, parce que encore une fois, c'est un produit qui est rare. Je vais pas dire que ça se compte sur les doigts d'une main, mais
presque,
quasiment. Et si tu dois en gros garder trois noms, Henry Selick, Tim Burton, Wes Anderson, qui sont quand même des cinéastes, en tout cas pour Tim Burton et Wes Anderson, dont l'esthétique, la personnalité, le visuel, tout est très très marketé. En fait, ils ont leur style qu'ils affirment et ils ont une certaine liberté stylistique qui est quand même assez rare, surtout pour Wes Anderson encore aujourd'hui. Et que il est, du coup, c'est pas des courts-métrages de stop motion, mais ce qu'il a fait par exemple sur Netflix, sur Wonderful Story of Henry Sugar, où il est encore dans l'affirmation de moi, ça me dérange pas de montrer du faux à l'écran, de montrer des trucages, en fait, de quasiment de l'image par image, comme faisait Méliès, de faire léviter un personnage en le mettant sur une boîte avec des miroirs, où tu vois clairement que c'est une boîte avec des miroirs. Et je trouve ça absolument dingue, cette liberté qu'il a et qu'il a mise à profit dans ses films en stop motion, qui, encore une fois, sont de très très grands films, très souvent cités parmi les meilleurs films d'animation et ou les meilleurs films d'animation en stop motion.
Je trouve que c'est pas rien que il y a de plus en plus de créateurs qui se mettent eux-mêmes en scène par rapport à leur création. Et du coup, bon, j'ai un film en tête par rapport à ça, évidemment, qui n'est même pas sorti en fait en France au moment où on en parle, car on l'a vu en festival. Tu l'avais aussi, Judith ?
Non, j'étais dégmée.
Qui s'appelle tout simplement Stop Motion, et en fait qui est l'œuvre d'un gars qui fait de la stop motion et qui s'appelle Robert Morgan. Et qui fait des trucs en stop motion, d'ailleurs beaucoup sont disponibles sur YouTube, je vous conseille d'aller voir. C'est hyper glauque et crado, je vous
on a hâte de le voir, du coup.
Je vous le dis, voilà. Et son film raconte l'histoire de quelqu'un qui travaille sur un projet stop motion avec sa mère, qui est une sorte de Phil Tippett, en fait, dans cet univers-là. Et elle finit par bosser sur son propre projet, qui lui prend des dimensions vraiment vraiment glauques, au point de vraiment rentrer en corrélation avec sa vie. C'est très très sale, c'est très très crade, c'est un vrai film d'horreur. Et il se met lui-même en scène à travers ce personnage. Et d'ailleurs, il est venu présenter le film dans le festival auquel je l'ai vu. Et il disait que il a plaisanté en disant que ce film c'était plus ou moins une autobiographie et qu'il fallait deviner quelle partie était vraie et quelle partie était pas vraie, qui est un peu ironique parce que dans le film il y a des trucs vraiment très très sales. Mais on revient vraiment à une vision de la stop motion comme une vision, une façon de ressortir l'individuel du processus cinématographique, mais là carrément l'intérieur de l'individuel, quoi. Enfin les tripes les plus crades.
Ah bah oui, on parle de création physique, donc forcément ça renvoie à l'idée s'il y a création de créateurs, et donc tout ça s'imbrique dans une seule œuvre, et c'est vrai que en animation traditionnelle ou numérique, c'est compliqué.
Alors écoutez les amis, c'est absolument passionnant tout ce que vous dites. Le problème c'est que un jour moi j'ai envie de rentrer chez moi et que la réunion est terminée.
J'ai pas fini de parler de Wes Anderson.
Oui, on n'aura jamais fini, Déborah. Enfin surtout toi, on sait très bien que voilà.
D'accord. Alors j'exige une réunion sur Wes Anderson particulièrement.
Ah mais en vrai c'est une idée, c'est une idée. Donc,
d'accord. Soumets-la, Geoffrey, s'il te plaît.
Si on fait Wes Anderson avant les Kaiju.
Non mais ça me brise le cœur. Voilà, je pense
c'est
que
pour la
voilà,
diversité, Mathieu.
On aimerait continuer à parler de stop motion jusqu'à la nuit des temps, mais là, je pense qu'on a fait un peu le tour des comment dire des sujets principaux qu'on pouvait aborder dans cette deuxième réunion. Du coup, c'est un peu triste de se dire qu'il y a un artisanat si précieux et si impressionnant qui a de plus en plus de mal aujourd'hui à se faire une place dans le cinéma. Surtout quand même quand il a connu l'âge d'or particulièrement prolifique des années 90-2000 dont on parlait. Et en même temps, vous avez donné plein de contre-exemples intéressants qui donnent beaucoup d'espoir pour l'avenir de cet art. C'était chouette de parler de tout ça avec vous. On a beaucoup de choses à dire finalement, cela dit, j'en doutais pas. Du coup, c'est la confirmation que la stop motion, ça ferait un super sujet de podcast le jour où on arrivera enfin à lancer du coup ce fameux podcast. Évidemment, le jour où ça arrivera, on espère très fort que les gens qui nous écouteront penseront à s'abonner, à laisser des commentaires gentils et 5 étoiles sur les applis de podcast, histoire qu'on puisse continuer à enregistrer des épisodes. Ben voilà, puis merci Déborah et Mathieu.
Et regardez Ma vie de courgette, c'est très bien Ma vie de courgette.
Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé de Ma vie de courgette. Voilà.
Il y a plein de choses dont on n'a pas parlé.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.